On va passer au débat avec la salle, donc j'ai une question au fond. Peut-être que je vais faire un petit tour, cette personne quelque chose. Je vais se réfléchir, allez-y.
Donc, tu es l'initié de l'Université de Bordeaux, je ne sais pas si j'allais vous parler. Je suis très ravi de que j'avais dû en diagonale, malheureusement, pour mon défense. Je suis allé chercher sur tout ce qui était militant et militant. Mais alors, j'ai deux petites questions. Une question, je dirais, et surtout une question d'ordre méthodologique par rapport à tout ce que vous avez dit, qui m'a vraiment intéressé. Avez-vous travaillé autour des travaux de Abraham Watts sur les labyrinthes du vécu? C'est extraordinaire comme Abraham Watts, qui avait bien marqué les années 80 en sociologie, disparaît. Parce que l'avantage dans les labyrinthes du vécu, ce que vous allez essayer de définir à travers vos yeux apparaît très bien en sphère concentrique, c'est-à-dire de la maison jusqu'à l'espace du vécu. Moi je vous en parle parce que moi ça m'a énormément aidé dans mon terrain qui n'a rien à voir avec l'autre, parce que moi je travaille sur la corde. Et donc mon partage, la chambre, la maison, la famille, le village, etc. Et c'est un intérêt intéressant parce que ça répond à toutes ces questions d'assimilation, etc. Donc je vous invite à vous entendre. Ça ne va pas rapporter beaucoup plus par rapport à vos yeux, mais ça va vous donner des pistes par rapport à ce que fait par moi, c'est-à-dire penser le système en système unique. Le penser en centre systémique, en microsystème, hein, je cite tous les termes qui m'emploient. Donc c'est-à-dire que par exemple, mon truc peut être considéré comme un système à part entière et non pas une périphérie banale. Système. Et on le voit avec une sorte de la pub pour les journalistes sur le Paris va dans périphérie. Non. Le système de Paris va dans un autre système, un microsystème, un système du monde qui se pense ainsi comme vous l'avez développé, et vous voyez donc c'est. Ouais. Et donc de fait, ça m'amène à. Alors là, par contre, je ne suis pas d'accord, c'est pas mon développement, c'est par rapport à ce que je viens de dire, ça n'a rien à voir avec l'attention, puisque vous avez dit sur les êtres. Et on travaille en Z, le poids, ça devient un Z, c'est surtout, bien sûr que les familles jouent, mais c'est surtout poussé par le producteur ou le principal. Donc c'est-à-dire, ayant vécu là-dedans, c'est-à-dire qu'on va mettre l'accent. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas Nicolas Sambès, parce que je pense qu'il aurait bien expliqué dans notre professeur. Donc à un moment donné, il y a un poids, si vous voulez, politique. Et pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai travaillé dernièrement, il y a 2 ans, dans un collège à Cadillac, qui avait écrit, donc de Bordeaux, qui disait, et comme ça a super bien fonctionné, grâce aux associations de parents d'élèves, grâce à la Porte de la Culture, on faisait venir même le musée dans le collège, les résultats, c'est plus un fait. Mais vu que ça fonctionne, pourquoi voulez-vous que ça reste un fait? Donc là, ils sont aussi dans des logiques de dysfonctionnement, au sens, je dirais, de Niklas Luhmann, par exemple, que tout système est dysfonctionnel, par exemple, hein, mais eux, ils font volontairement pour rester zèbre. Parce que si on devient super zèbre, donc de fait, on devient normal. Et, donc, et le fait que ces parents d'élèves qui agissent énormément, mais ils agissent ailleurs aussi des petites choses comme ça. Parce que moi, je l'ai vécu dans le cadre de mon terrain, j'en parlais ce matin. J'ai été payé par le CNRS pour faire une enquête sur la jeunesse et la politisation du jeune encore. Et la seule personne qui m'a empêché de le faire, malgré son accord verbal, c'est le recteur. Pourquoi? Non pas parce qu'il avait peur de mon enquête, mais tout simplement parce qu'il avait peur que l'acte ci. Les esprits chagrins, c'est-à-dire les associations de parents d'élèves. Et de fait, les esprits chagrins pourraient mettre à mal la neutralité du professeur qui m'accompagnait, même si mon travail était reconnu par le CNRS, le connaissant, etc. Et donc, voilà ma question. Donc, si on pense en système ou si on pense une vision d'assimilation, donc là, moi, c'était Weber qui m'est venu, je pense en assimilation tout à l'heure. Donc, est-ce qu'on peut penser en lien de communisation? Donc, ils vont créer des liens de communisation entre eux. Et ma question, parce que vous avez compris par rapport à la jeunesse, c'est quelle est la place de cette jeunesse dans ce système monde? Eh bien, est-ce qu'ils vont revendiquer une forme d'appartenance réelle à ce lieu? Est-ce que ça crée des militants propres à ces jeunes, style des nouveaux bobos, je ne sais quoi, ça fait tout moins discuté? Donc, voilà. Donc, moi, c'est juste pour l'info. Et donc, voilà. Quel est votre avis? Parce que vous pensez qu'on peut, dans ce milieu, le fait qu'en plus, il y a eu des migrations, comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a véritablement une identité jeune qui s'est créée, ou une identité plus courte, pour ces jeunes, intrinsèquement liée à ce milieu? Je vous dis encore merci.
On vous laisse répondre à la parole, et puis on a deux questions. Les questions peut-être plus courtes, mais c'est pas le temps après vous, hein. On a du temps.
Je
sais pas,
sur le classement Z et le poids des politiques, tout à fait. En fait, justement, ce qui est intéressant, c'est comment, dans la mobilisation dont je parlais, les parents ont réussi justement à faire alliance avec des élus et d'abord à faire élire les bonnes personnes, tout en leur ayant remis le dossier du collège dans les mains de façon ostensible et en gros, ils ont utilisé une élection cantonale en demandant à tous les candidats de se positionner sur cette question du collège. Ils se positionnaient publiquement en répondant à un questionnaire, et les réponses ont été diffusées dans toutes les boîtes aux lettres du quartier. Il se trouve que le père d'élève le plus mobilisé, la cheville ouvrière de cette opération-là, sa femme est journaliste, professionnelle, journaliste au Monde, et il y a tout un réservoir de savoir-faire et puis éventuellement de réseau pour mettre une amicale pression sur le fait de prendre position publiquement pour ou contre le classement du collège, la demande de classement en ZEC ou la réflexion, la construction d'un nouveau collège. Et donc effectivement, une fois l'élu élu, t'es obligé de porter le dossier et donc ça fait chaque. Mais voilà, c'est comment effectivement on influence sur ces élus. Et puis sur votre question sur la jeunesse, alors je ne peux pas vraiment vous répondre parce que j'ai pas de matériaux suffisants pour vous répondre. Les gens que j'ai rencontrés dans le Bas-Montreuil, c'est vrai que leurs enfants étaient quand même assez jeunes. Pour la génération du baby-boom, ils sont quand même installés comme les autres au moment d'avoir un ou deux enfants. Donc en fait, ce sont des couples qui ont eu des enfants assez tard. Et quand je les ai rencontrés, leurs enfants venaient de quitter le lycée, grosso modo. Donc ça, c'est vraiment pour les plus âgés. La grande majorité, leurs enfants étaient très jeunes, école maternelle, école primaire. Donc je ne peux pas vraiment vous dire. Ce que ça me fait juste penser à. Enfin, je pense que quand même la socialisation familiale est très importante. Et par rapport à ce que je racontais tout à l'heure sur est-ce qu'il faut faire bloc, se mobiliser justement pour faire de Montreuil un monde qui a une valeur en soi, qui a une centralité, qui a une valeur, etc. Ou est-ce que quand même. Il y a une mère comme ça qui était celle qui prenait le plus ouvertement ses distances par rapport à la valeur des artistes de Montreuil, qui elle avait une position désormais bien établie parce qu'en fait elle a transformé professionnellement, ça marchait pas super bien sa trajectoire, mais elle a fait de la gentrification son boulot, et donc elle est devenue marchande de biens et ça a très très bien marché et donc elle a accumulé un patrimoine très important. Donc, grosso modo, c'est bon, elle s'est servie du processus à Montreuil, mais maintenant, elle est quand même consciente que, pour parachever un peu cette trajectoire ascendante, ça serait quand même mieux que ses enfants découvrent le Louvre plutôt que d'aller aux portes ouvertes des ateliers d'artistes de Montreuil. Et donc, elle me disait explicitement qu'elle était gênée par le fait que ses enfants restent trop à Montreuil, et que de grandir uniquement à Montreuil, ça allait être un enfermement et qu'ils n'allaient pas voir qu'il y a Paris juste à côté et que quand même, il ne faut pas perdre de vue Paris. Et ça, c'était des enjeux très importants. Il y en a d'autres qui l'ont manifesté justement plutôt pour justifier leur choix scolaire, leur choix d'évitement scolaire et de scolariser leurs enfants dans Paris. Et encore une fois, il me semble quand même que leur métier jouait un grand rôle dans cette préoccupation-là. En tout cas, une me disait très clairement, moi dans mon métier, donc photographe et graphiste, c'est vraiment les relations qu'on a établies au cours du lycée et des études qui ensuite servent pendant la vie professionnelle. Donc il ne faut pas se louper. Donc moi je veux que mes gamins ils se fassent de bonnes relations, des relations au sens de relations utiles, dès le collège, quoi, grosso modo. Donc je vais les scolariser dans Paris. L'autre, elle qui voulait que son enfant voit le Louvre, il fait trop de sport, il traîne avec ses copains, il sort jamais de Montreuil. Donc j'ai décidé qu'on allait se faire des petites sorties en tête-à-tête, où je l'invite au restaurant, donc ça la passe. Et puis en fait, avant on va au Louvre, après on va voir tel monument, et puis je lui montre un peu ce que c'est que Paris, et ce que c'est que la vraie culture, une ligne de ce nom. Donc il y a des préoccupations quand même, ils savent bien que la banlieue, ça reste la banlieue quand même, quoi, et que cette centralité est toute relative, parce qu'ils ont créé à un moment donné, c'est pour eux.
Oui, merci. Je m'appelle Joseph, fellow Marie Curie ici à la Metz. Je voudrais vous donner une perspective londonienne de cette question-là de l'embourgeoisement. Parce qu'à Londres, depuis des années, on a vendu les HLM par les gens. Mais maintenant, c'est les HLM qui accueillent beaucoup de gens qui voudraient habiter un emplacement moins cher. Donc pour les gens comme ça, les petits bobos et tout ça, elles achetaient les H&M pas cher, mais elles vivaient dans le même palier que les petits vendeurs de shit ou les familles donc difficulté et tout ça. Donc c'est très intéressant de voir le mélange comme ça. Pour moi, c'est très intéressant de voir en France la barrière durable entre les villes de Paris et Savagneux, entre les HLM et les petites usines et les petites maisons comme ça. Mais pour eux, le point c'est que les gens comme ça, de partir à Paris, de vivre en Saint-Denis, tu crois que ça détruit un peu la barrière entre Paris et les banlieues ou pas?
Je ne sais pas.
Après, les sociologues, ils n'allaient pas de l'autre côté du périph', donc déjà, ils vont à Montreuil.
Alors. Montreuil, ça fait un moment qu'il y a des chercheurs qui travaillent dessus, et c'est même mon énigme du moment. Je me demande pourquoi il y a eu tant de chercheurs qui ont bossé sur Montreuil si tôt. Mais plutôt des urbanistes, des géographes, mais aussi des sociologues. Parce que du côté des politiques urbaines, je me demandais qu'est-ce qu'ils faisaient qu'il y avait eu des politiques urbaines comme ça, je n'ai pas eu le temps de développer, mais qui ont quand même permis au quartier de se sortir assez vite de cette crise, enfin, se sortir vite, de faire face à cette crise industrielle. Et j'ai rencontré récemment l'adjoint à l'urbanisme dans les années, enfin, qui était adjoint à l'urbanisme pendant les années 82-89, qui me disait qu'en fait ce qu'ils avaient réussi à mettre en œuvre, c'était grâce à tous les travaux de recherche déjà accumulés sur Montreuil et à la contribution d'énormément de chercheurs et d'urbanistes et de géographes et de sociologues qui leur avaient permis de très vite poser un diagnostic et mettre en œuvre des politiques. Mais je pense qu'il y a quand même une sorte d'effacement de la frontière Paris-banlieue à travers ces dynamiques-là. C'est sûr que tout ce notre diapo, il y a énormément d'affichage en tout cas, ou d'expression qui tendent en fait je suis ambiguë parce que ce qui me gêne en fait dans cette histoire là, mais là j'ai plus vraiment une position de chercheur, c'est que en gros quand Montreuil devient fréquentable, Montreuil devient Paris quoi. C'est-à-dire qu'en gros ça devient le 21e arrondissement de Paris, ça devient une extension parisienne, c'est Paris qui déborde sur ses marges. Et donc par exemple dans certains articles de presse, les journalistes vont interviewer un certain nombre de figures du cinéma ou de la photo qui résident à Montreuil en disant voilà, ils sont installés à Montreuil. Ça montre bien que maintenant c'est une extension parisienne, alors que certains d'entre eux vivent depuis 25 ans. Enfin, je pense à Dominique Cabrera qui est là-bas depuis 25 ou 30 ans, qui ne s'est jamais revendiquée parisienne, et les journalistes vont la voir et écrivent qu'elle est allée à Montreuil et que ça prouve bien que maintenant c'est un peu comme Paris, quoi. Donc c'est une drôle de manière d'effacer la frontière, voilà, c'est ça que je veux dire. En fait, la frontière elle reste, mais elle se déplace, quoi, en quelque sorte. Voilà, mais c'est vrai que c'est un peu le point de vue que j'avais adopté dans l'article proposé pour Acte la recherche en sciences sociales, qui était effectivement comment on fabrique du Paris à partir de la banlieue, quoi. Et donc, on travaille sur les images, mais aussi on travaille sur le bâti, on travaille sur cette question de la centralité. Enfin, les enquêtés me disaient, enfin, ils étaient vraiment dans des moments où il y avait un enjeu pour eux à faire venir leurs amis parisiens et à leur dire ah, c'est pas loin, tu n'en as que pour un quart d'heure. Et du coup, dans leur logement, alors c'est pas la seule cause, mais ils veillaient à avoir un espace pour pouvoir accueillir leurs amis et éventuellement les faire rester dormir pour les amis qui étaient inquiets ou qui voulaient du coup rester un week-end entier, donc aussi en lien avec les trajectoires biographiques et le fait d'en être à un moment de la vie familiale, hein, donc c'est plus difficile de sortir juste pour la soirée. Mais donc, ils essayaient de faire valoir les atouts de Montreuil, à savoir de l'espace et des jardins, pour créer une attractivité auprès de leurs copains parisiens. Donc par exemple, organiser un barbecue dans un jardin, c'est vrai que pour n'importe quel parisien, on y va, quoi, parce qu'on n'a pas l'opportunité de passer une après-midi dans un jardin si facilement. Voilà. Passer la nuit à Montreuil, voilà. Alors c'est vrai que sur la question des statuts d'occupation des logements en Angleterre, ça a été... J'avais fait mon mémoire de DEA sur le quartier de Stoke-Newington à Londres, donc on m'avait beaucoup raconté ça. Voilà, l'effet du right to buy, je crois que c'est ça la loi, effectivement. Et ce qui était intéressant à Stoke-Newington, en lien justement aussi avec la nature du bâti, c'est que c'est un quartier où il y a beaucoup de maisons individuelles, et donc il n'y a pas cette question du panier, parce qu'en fait, il y avait pas mal de logements qui appartenaient à des bailleurs sociaux, pas forcément municipaux, mais associatifs, et qui, du coup, sont devenus hyper attractifs quand les gens ont pu les racheter, parce qu'il n'y avait pas ce truc de la cohabitation sur le panier. Et voilà, on pouvait racheter des petites maisons individuelles. Alors, il y avait quand même du voisinage, hein, du voisinage parfois tendu. Donc, ouais, ça jouait un rôle énorme. Donc, effectivement, en France, la frontière HLM reste une frontière. Enfin, j'ai des cartes sur la suivante, sur la diffusion du phénomène de gentrification après entre 1999 et 2006. Où le phénomène s'est vraiment accéléré du point de vue des données. Moi, je vous ai parlé surtout des années 90 et du début des années 2000, mais ça s'est accéléré vraiment beaucoup. Et j'avais mesuré l'augmentation, non pas de la part, mais du nombre de cadres et professions intellectuelles supérieures. C'est un petit peu une manipulation de chiffres, au sens où quand il y en a très peu au départ, bien sûr, l'augmentation du nombre, elle est vite importante. Mais en gros, cet accroissement, hein, mesuré en pourcentage, il était le même dans le Bas-Montreuil et dans tout le reste de la ville. Et par contre, vous voyez bien les tâches qui restent en bleu clair, ça correspond très très clairement au quartier de logements sociaux. Enfin, c'est pas une surprise, hein, mais c'est une forme de résistance, quoi.
Une question, merci. Par rapport à votre sujet, j'ai lu les travaux de Jacques D'Angelo, La ville à trois vitesses. Je trouve ça intéressant par rapport à l'entre-soi sélectif. C'est par rapport à, par exemple, pour lui, c'est la périurbanisation, la relégation et la gentrification. Entre soi sélectif. Pour moi, ça sera l'intitulé à devenir bourgeois plus que rester bourgeoise. Et aussi, de votre côté, pour l'appareil de Bourdieu, dont Bourdieu parlait par exemple, ça manque un peu l'habitus de classe. Il y a aussi le concept de reproduction, le concept du champ. Par exemple, ici, le capital culturel, le positionnement dans le champ, c'est avec le capital culturel, pas avec le capital économique, peut-être pour le capital symbolique. Et je trouve ça intéressant par rapport à mes études sur la radicalisation. Je travaille sur la radicalisation des Français issus de l'immigration maghrébine qui habitent dans les US, ils ont été insensibles. Et merci.
J'aurais une question plutôt sur la question de la résistance éventuellement d'habitants qui sont les premiers gentrifieurs ou ceux qui se trouvent du coup gentrifiés. Est-ce que vous avez développé des phénomènes de résistance? J'ai bien écouté dans quel endroit il y a par exemple un peu d'étiquette puisqu'il y avait beaucoup de friches industrielles, donc aussi beaucoup de foncier disponible. Mais du coup, dans quel lieu est-ce que vous avez écouté des phénomènes de résistance?
Alors, dans le quartier de la Croix-Rousse, il y avait même encore plus de vacances des logements et de déclin démographique, mais bien avant, c'est-à-dire que c'est vraiment dans l'immédiate après-guerre, le déclin démographique est très marqué, la vacance des logements est forte au début des années 70, donc là aussi, il y a un petit effet appel d'air aussi. Mais néanmoins, dans les deux quartiers, il faut relativiser. C'est pas des quartiers vides, c'est pas des quartiers qui étaient uniquement dédiés à l'activité et qui étaient totalement vides, hein, en habitant. Hein. Donc voilà, je ne voudrais pas donner cette image-là. Après, des formes de résistance, non, sur le moment, j'ai pas observé en tout cas de forme de mobilisation collective, de résistance à la gentrification. Et en revanche, là, en promenant dans le quartier l'automne dernier, j'en ai vu de la part des gens que j'avais enquêté moi comme gentrifieurs, qui, dans ce petit secteur dont je parlais tout à l'heure, de petits pavillons, etc., les prix sont vraiment envolés, qui s'est beaucoup valorisé, sont face là vraiment à des projets immobiliers qui sont différents de ce que eux ils sont venus chercher, hein, donc à la place d'anciennes maisons, des immeubles collectifs qui vont se construire. Et donc voilà, là il y a des rues, dans plusieurs rues, quasiment à chaque façade, des bannières, non à la spéculation folle, non au prix de l'immobilier fou, etc. Enfin, ils sont là il y a une mobilisation collective anti-gentrification de la part des gentrifieurs du début de l'année 2000. Voilà, j'ai pas exploré beaucoup les travaux. Je pense qu'il y a plus de travaux en langue anglaise là-dessus sur des mobilisations anti-gentrification parce qu'elles sont aussi plus nombreuses aux États-Unis ou en Allemagne ou en Angleterre. Il y avait d'ailleurs à Stockmayton, à l'époque où j'y étais, un foyer associatif de résistance à la gentrification, enfin, explicitement hein, formulé comme ça. Mais c'est vrai que c'est assez peu développé en France et que finalement, je crois que les quelques tentatives dont j'ai entendu parler d'enquête sur des mouvements de résistance à la gentrification faisaient retomber sur des profils de classe moyenne sup très dotée en capital culturel et faiblement dotée en capital économique. Et, voilà, qui politisait justement cette question-là. Voilà, sur des formes de résistance au sens des continuités populaires dont on parlait ce matin, ben non, c'est Hélène qui va parler là-dessus. Non, non, j'ai été très très mauvaise là-dessus.
C'est un peu la même question, mais je ne vais pas vous dire autrement. Mais d'abord, alors je suis une géographe, je ne vais pas discuter avec vous, mais je travaille sur les espaces périurbains et je trouve assez remarquable finalement le parallèle qu'on peut faire entre les deux petits espaces en termes d'accommodement finalement avec une localisation résidentielle qui est dans les deux cas finalement un choix sous contrainte et comment les individus reconstruisent ce choix en le justifiant à partir de tout un panel de soi-disant stratégies, qu'elles soient familiales, professionnelles ou résidentielles, a posteriori, et comment même, moi j'ai souvent interviewé des gens à 6 ou 7 ans d'intervalle, comment le discours des gens, des mêmes personnes, se transforme sur le temps, alors qu'on les interroge sur le même moment, celui du choix résidentiel. En fait, c'est pas là-dessus que je voulais intervenir, c'était plutôt sur le fait que je trouve que vos travaux complètent très bien. Alors, je ne travaille pas sur les gens de classification, mais j'utilise ceux de Anne Kerval sur Paris et ceux de Mathieu Giraud sur les émotions que je peux avoir. Je trouve que ça se complète très bien parce que vous montrez que du point de vue des individus, il n'y a pas ce plan qui existe parfois dans le tribunal, en particulier montrant qu'on veut, le mot est un peu fort, mais employé dans d'autres contextes géographiques, faire déguerpir une classe sociale en particulier. Que c'est bien simplement une question de posture personnelle, d'histoire biographique, etc. Et que finalement, quand on prend les travaux de Anne Kerval, elle montre que finalement la somme de ce non-plan individuel finit quand même par faire un espèce de plan collectif qui contribue à, justement, les contraintes entre les deux est magnifique, à l'accélération du processus, à des formes d'embourgeoisement qui sont encore plus marqué. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, ma question portait également sur la distance à distance. Je suis surpris que sur Montreuil, il n'y ait pas eu cette forme de résistance, ou est-ce qu'on était vraiment dans un tissu qui était déjà tellement exempt que finalement, dans le bas Montreuil, toutes les industries étaient déjà parties, les catégories sociales populaire était déjà en train de partir au monde, s'amorce la chose, puisque dans l'exemple de Lisbonne qui est travaillé par Mathieu, qui montre bien qu'il n'y a pas une résistance là de la part des catégories populaires, pas des premiers souffleurs, de la part des catégories populaires pour s'opposer à cet aspect-là.
Alors effectivement, les activités industrielles, la plupart effectivement, disparu, mais par contre l'équipe municipale élue en 82, 83, j'ai plus de 83, avait une politique assez offensive de relance de l'emploi, d'essayer de maintenir ou de recréer des emplois sur place. Et donc en fait, une de leurs politiques, ça a été ce qu'ils ont appelé les centres d'activité de pointe, c'est-à-dire en fait prendre des locaux industriels, la mairie les rachète à travers sa société d'économie mixte, les transforme en des locaux plus petits les revend ou les met en location auprès de nouveaux professionnels qui du coup, alors au début ils avaient imaginé, ils voulaient quand même maintenir l'activité industrielle, donc dans le premier cap, le premier centre d'activité de pointe qui était sur une grosse usine, ils avaient imaginé garder de l'activité industrielle au rez-de-chaussée et des activités tertiaires dans les étages. Et puis finalement c'est quasiment que du tertiaire qui est venu. Et donc, voilà, sur les autres caps, ils ont fait des locaux tertiaires, des locaux d'activité tertiaire, et ça n'a pas trop mal marché, en fait. Hein. Mais ça a attiré, en partie, ces populations gentrifieuses, puisque un certain nombre d'entre elles étaient... Enfin, parmi les activités qui ont été attirées, il y a eu pas mal d'activités liées à l'image, enfin, à l'imagerie, l'imagerie, technique d'imagerie de l'époque, au dessin animé, il y a eu des studios de Walt Disney, il y a eu... des métiers de l'audiovisuel en fait. Donc ça a pu amorcé aussi hein, la venue de gens qui sont venus découvrir Montreuil par leur lieu de travail et non pas par leur lieu de résidence. Mais sur les formes de résistance non organisées, non militantes, à mon avis, c'est juste que moi, je ne les ai pas regardées. Enfin, contrairement à Mathieu, ce n'était pas mon objet. J'étais vraiment sur cette sociologie de ce groupe social, cette transformation dans le temps. Et effectivement, j'ai pas été voir hein, des ménages des classes populaires et j'ai pas mis en place des dispositifs pour voir aussi leur manière de rester là. Donc, ce que je sais, c'est qu'il y a une part importante d'entre eux qui étaient propriétaires et qui sont restés propriétaires et qui resteront jusqu'à leur mort. Enfin, voilà, et donc, la mutation, elle s'opérera une fois que eux seront plus là. Et ce que je sais aussi, c'est qu'il y a des formes de résistance très localisées autour de cette rue de Paris, autour à la fois des immeubles collectifs, dont certains, mais c'est pareil, je n'ai pas les mesures et des sources fiables, mais il y avait manifestement quand même une activité assez importante de location type marchand de biens. Donc là, c'est des propriétaires qui ont une capacité de résistance parce qu'ils sont propriétaires d'un ou de plusieurs immeubles et puis en gros voilà rentrent dans des batailles juridiques longues avec la mairie mais finalement maintiennent sur place des populations qui elles tournent en fait en permanence hein, mais qui appartiennent clairement aux fractions les plus fragiles des classes populaires. Et puis il y a les commerces, cette rue de Paris elle est encore aujourd'hui les commerces sont très majoritairement des commerces dits ethniques ou des commerces effectivement à destination d'immigrés plus ou moins récemment arrivés, taxiphones, épiceries, coiffeurs, etc. Donc du point de vue du tissu commerçant, ça change pas si vite. Quoi. Donc il y a des formes de continuité populaire assez nette. Et puis pareil, je montre que le phénomène s'est beaucoup accéléré 99-2006, et puis depuis 2006, ça, manifestement, c'est encore bien pire. Quoi, c'est en gros, jusqu'en 99, on est quand même à un équilibre hein, entre classe populaire et je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'on franchit le seuil des 50% entre classe populaire et classe moyenne sup. Entre le recensement de 99 et celui de 2006. Donc, c'est pas non plus. Enfin, voilà, dans les plans de la Croix-Rouge, c'est exposé depuis longtemps. Les classes populaires sont très minoritaires en tant que résidents. À Montreuil, au milieu des années 2000, ils constituent à peu près la moitié des habitants, quand même. Hein, donc, et ils constituent une bonne partie du flux encore entrant. Voilà, donc, c'est pas non plus. En tout cas, jusqu'au milieu des années 2000, il y a une présence des classes populaires qui est assez forte. Il y a aussi un autre aspect lié aux politiques urbaines, aux politiques municipales, c'est cette équipe municipale de 82 à 89, 83 à 89, décidément, j'ai du mal, a aussi eu une action très volontariste dans le domaine du logement social, justement, et a créé beaucoup de logements sociaux dans le quartier du Vieux-Montreuil au cours des années 80. Pareil, j'ai plus le chiffre en tête, mais ça doit être de l'ordre de 1400 logements sociaux, quelque chose comme ça, créés sur cette mandature-là. Et à nouveau, un peu moins, mais à nouveau quand même plusieurs centaines dans les années 90. Dans les attributions, c'est pas les fractions les plus précaires hein, des classes populaires qui accèdent à ces logements, mais c'était pas mal, je crois, de ménages employés et professions intermédiaires. Donc c'est aussi. Un instrument du maintien de classe populaire en quartier. Mais après, de là parler de résistance, non.
C'est ça. Question sur. Parce que tu as fait référence à un retour que tu as fait sur le livre, notamment à Lyon, surtout par rapport au titre. Mais par contre, quand on voit dans ton livre, et par rapport à ce que tu as raconté, la longueur d'un certain nombre d'entretiens hein, avec des gens. Qui était vraiment là pour échanger avec toi sur ces questions qui ont une capacité de réflexion aussi, bien sûr, dans le social, etc. Est-ce que tu peux me raconter un peu d'autres types de retours, éventuellement, de gens qui ont, notamment à Montreuil, ils ont un peu lu un peu plus dans le détail, ou alors, est-ce qu'ils t'ont fait les retours de façon privée, de quel type, ou comment ça s'est passé éventuellement dans la présentation publique à Paris ou à Montreuil?
Alors, sur le livre lui-même, j'ai pas eu de présentation à Montreuil, c'était plutôt des retours par rapport à. Il y a des enquêtés à qui j'ai envoyé
ma thèse ou l'article BAC, ou si j'ai fait une présentation à Montreuil auprès d'une des enquêtées qui est elle-même urbaniste, qui a une agence d'urbanisme là-bas et qui du coup voulait que je vienne présenter le bouquin à l'ensemble de son équipe d'urbanistes. Bon, les retours sont assez variés, mais ils reflètent tous le fait que c'est un milieu social désireux d'apprendre et qui apprend très vite, et qui était déjà aussi familier de sociologie, ou qui en tout cas se rend familier de sociologie. Donc, j'ai une enquêtée, bon, ça c'était même le jour où j'ai fait l'entretien avec elle, je suis arrivée, elle me dit « Oh, justement, je me demandais un peu ce que c'était que la sociologie, mais j'ai entendu justement Bernard Lahire ce midi sur France Culture, donc maintenant je vois mieux, donc c'est formidable, ça a l'air génial, etc. » Un autre qui me dit « Ma femme a fait des études de socio à Paris 8, elle adorait les pinsons Charlot, mon Dieu, etc. » machin. Donc c'est moi qui ai tapé son mémoire, donc je connais très bien, enfin voilà, il est déjà très familier de sociologie. Donc lui, les échanges que j'ai eus avec lui, qui était le militant engagé sur la question scolaire, lui, il était un petit peu chagrin à la fois de certaines interprétations, à ses yeux quand même un peu trop bourdieusiennes au sens déterministe, et voilà, qui ne laissait pas tout à fait assez de place quand même aux marges de manœuvre individuelles, quoi, grosso modo. Et puis en même temps, était insatisfait de mon travail parce qu'il voulait comprendre mieux pourquoi les générations suivantes se mobilisaient si peu et étaient si peu politisées et impliquées dans la vie locale. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? Donc cette copine urbaniste, parce qu'elle s'est devenue un peu une copine, elle m'a dit qu'elle avait trouvé ça hyper violent de se relire 10 ans après, en fait. Et voilà, elle trouvait qu'elle se reconnaissait pas, mais qu'en même temps, qu'elle se reconnaissait, qu'elle s'était identifiée sans problème, elle savait qui elle était dans le bouquin, du nom anonymisé, mais qu'elle pensait plus du tout pareil, enfin, c'est ce que vous disiez à l'instant. Et donc effectivement, elle avait eu des discours très très virulents sur Montreuil, en disant, notamment d'un point de vue d'urbaniste, quoi, en disant vraiment c'est horrible la banlieue, c'est ça ne correspondait pas du tout à ses attentes d'urbanisme. Et puis aussi un point de vue assez violent sur les autres gentrifieurs, donc là aussi des tensions entre gentrifieurs, où elle se sentait vraiment pas à l'aise avec, avec les artistes voilà, qu'elle trouvait renfermés sur eux-mêmes, voilà, extrêmement dans l'entre-soi justement. Et, voilà. Mais elle était extrêmement surprise, quoi. Elle m'a dit voilà, je ne me souvenais pas que j'avais pensé des choses aussi violentes et que j'avais vécu des choses aussi dures. Parce qu'en fait, elle m'a dit, voilà, je me suis rendu compte que j'ai vécu un truc dur en m'installant là et que finalement, maintenant, je suis super heureuse, mais c'était dur, quoi. Voilà, mais c'est bon, c'est des petites remarques éparses, hein, c'est pas...
Une question.
Pour revenir par rapport à mes extraits ou entretiens sur la parole, sur une personne musulmane qui est libertaire par son authenticité et que peut-être un basculement qui se fait au niveau de l'alimentaire, est-ce qu'il y a eu d'autres entretiens justement faits dans ce sens-là ou d'autres personnes justement ont évoqué cette question alimentaire et la parole justement qui devient en fait un quartier qui n'a plus son charme du l'authenticité.
En fait, j'ai surtout. Ça nécessiterait de décrire un peu mieux les enquêtés croix-roussiens, hein, qui n'ont pas forcément non plus exactement le même profil que les Montreuillois. Mais parmi les croix-roussiens, en fait, j'ai distingué, il m'a semblé pouvoir distinguer des gentrifieurs qui étaient en ascension sociale et pour qui, en fait, s'installer à la Croix-Rousse faisait partie de l'ascension sociale, très clairement, et du fait d'accéder à ce groupe social. Qui s'identifie à la fois par certaines professions et par ce lieu dans la ville. Hein, donc c'est vraiment devenu très symbolique un groupe social. Donc, je les ai appris dans mon bouquin, je crois, les héritiers, au sens où ils héritent vraiment des positions forgées par les nouvelles classes moyennes, comme s'ils rentraient dans leurs pantoufles, quoi. Donc ils prennent les mêmes métiers, les mêmes appartements, les mêmes codes esthétiques, les mêmes modes de vie, ils se fondent complètement dans le paysage et ils en sont extrêmement satisfaits, en fait. Enfin, ils en retirent vraiment un vrai plaisir, hein, de rentrer aussi dans ce jeu social du marché de la Croix-Rousse du dimanche matin. Et ils n'ont pas une forte distance par rapport à qui s'y joue, et notamment à ce qui est de l'ordre de la représentation collective, là au sens de représentation théâtrale. Et puis, j'ai un autre groupe d'enquêtés qui, eux, sont des enfants de nouvelle classe moyenne, qui ne sont pas en ascension sociale, mais qui sont plutôt en reproduction sociale. Leurs parents n'ont pas forcément vécu à la Croix-Rousse, mais ont vécu dans d'autres quartiers en gentrification, à l'époque, donc on grandit à Daguerre, dans d'autres quartiers qui gentrifient à la même période, où on grandit certains dans des familles d'universitaires, ils ont fait un retour à la terre par exemple, donc en milieu rural. Et eux, en fait, ils ont hérité de leurs parents ils reproduisent pas exactement les mêmes choix résidentiels ou les mêmes choix professionnels, mais par contre, ils ont hérité de leurs parents ce discours critique, cette culture du discours critique, pour reprendre les mots de Boulner, qui fait que du coup, le positionnement critique que leurs parents avaient à l'époque à l'égard de la ville des années 70 ou à l'égard des professions des années 70, eux le reproduisent à l'égard du monde des années 2000. Et donc, en fait, dans le champ professionnel, ça fait que leur choix professionnel va plutôt se porter sur le tiers secteur, sur le secteur associatif, que sur le public. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement critiques vis-à-vis du public dans lequel bossaient leurs parents. Et en revanche, ils disent, voilà, si on veut faire évoluer les choses, les faire changer, maintenant, il faut être plutôt dans le secteur associatif, mais aussi dans le lobbying. Enfin, c'est l'associatif au sens aussi les lobbies européens, etc. Et du point de vue résidentiel, ils ont à la fois une forme d'attachement très fort à la Croix-Rousse, et ils sont très contents d'y retrouver plein de marques de leur enfant, de la culture dans laquelle ils ont baigné toute leur enfance, et donc des formes d'identification très fortes, mais avec lesquelles ils s'amusent eux-mêmes, en fait, avec lesquelles ils ont pas mal de distance. J'ai en tête un extrait d'entretien où l'enquêté me disait, voilà, au moment où Sarkozy, en 2007, est venu faire sa campagne présidentielle, il voulait faire une étape à la Croix-Rousse, et il n'a pas pu dire un mot puisqu'il s'est fait chasser par les militants croix-roussiens rassemblés là pour le mettre dehors. Il me raconte en rigolant, il me dit, le soir même, j'ai envoyé des mails à tout mon réseau, à ma famille, en disant, regardez comment on l'a foutu dehors, à la Croix-Rousse, on résiste à Sarkozy, etc. Et puis il éclate de rire, il me dit, mais moi j'y étais pas du tout, j'étais au boulot, je l'ai appris le lendemain, j'ai pas fait partie de ce truc-là, mais ça me fait plaisir et je suis embarquée, le bénéfice symbolique de ces mobilisations rejaillit sur moi en tant que Croix-Roussien. Et en même temps, lui me disait, oui, effectivement, nous on est des pantouflards, quoi. C'est à la guillotière qu'aujourd'hui se posent les enjeux de cohabitation, c'est à la guillotière qu'il se passe des trucs intéressants sur le plan culturel. Eux, ils sont assez critiques et ils voient bien qu'il y a une forme de mise en scène et puis de capitalisation symbolique extrêmement forte et maintenant extrêmement rodée, extrêmement efficace à la Croix-Rousse. Mais ils en tirent profit et tout en sachant que du coup, ils n'ont pas le même rapport au lieu que leurs aînés.
Je dirais bien, on va s'arrêter là. On va remercier évidemment Anaïs Collet d'être venue, les discutants. Sylvie Schuss pour l'accompagnement.